Vous avez vu que tout l'évangile de Jean, et particulièrement ce chapitre 20, est encadré par une double idée, voir et croire. Voir et croire, et comment on arrive à croire sans voir? C'est toute la question. Et pour le comprendre, je vous invite d'abord à nous arrêter sur ce personnage de Thomas. Thomas, c'est un personnage qui est un disciple que personnellement, j'aime énormément. C'est le disciple qui met sa propre vie en jeu pour suivre Jésus-Christ. C'est pas Pierre qui met sa vie en jeu pour suivre Jésus-Christ. Pierre, il veut interdire à Jésus de mourir, ce qui lui vaudra arrière de moi Satan. Non, le disciple qui dit à Jésus, si tu dois aller en Samarie et si tu dois mourir, alors nous te suivrons et nous mourrons avec toi. C'est Thomas. C'est Thomas qui tout à coup dit, te suivre, si ça doit me coûter la vie, eh bien que ma vie, je te la donne. C'est pas n'importe qui. Voilà comment on nous présente Thomas. On nous présente presque rien de lui. Le peu qu'on nous présente de lui, c'est quelqu'un non pas qui veut empêcher Jésus de mourir, mais quelqu'un qui dit, moi je te suivrai, et qui assume pleinement ça. C'est ce courage qui est mis en avant. C'est ce courage, cette dévotion, cette passion qui est mis en avant. Et donc ce Thomas, eh ben, dans cette passion, se retrouve eh ben, à faire son deuil de son côté. On sait que ce n'est pas le seul. On a déjà Clopas et certainement Marie, son épouse, qui l'ont fait. Hein. Clopas, Marie, ce sont les disciples d'Emmaüs. Hein. Donc Marie au pied de la croix, dont le mari est Clopas, et les disciples d'Emmaüs, Clopas et un autre disciple. À vous de faire l'allusion que vous voulez. Mais il faut vraiment beaucoup d'imagination pour croire que c'était deux hommes. Donc, voilà qu'on a Thomas qui, lui aussi, fait son deuil autrement. Il n'est pas avec les autres. Et ça, je le comprends. Si vous avez déjà été dans une situation de douleur, eh ben, y a ceux qui ont besoin de s'entourer de ceux qui leur sont proches pour le vivre quand on a perdu un proche. Et puis, il y a ceux qui ont besoin de s'isoler, de se retrouver avec eux-mêmes. Et Thomas, il a perdu le cœur du cœur de sa vie. Il a perdu celui pour qui il aurait voulu donner sa vie. Il n'a pas pu la donner. Et voilà que ben, pendant ce temps-là, les disciples vivent, quand je dis les disciples, les hommes, les femmes qui sont là, vivent d'une chose extraordinaire. Ils voient le Seigneur. Vous avez bien noté, et puis j'ai insisté avant la lecture, vous l'avez entendu dans la lecture, Marie de Magdala qui voit le Seigneur et qui va annoncer aux autres, j'ai vu le Seigneur. Les disciples auxquels le Seigneur apparaît et qui leur montre ses mains et son côté. Et qui vont donc dire à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Et nous, dans notre représentation de Thomas, on pense à l'incrédule. J'aimerais juste qu'on se remette un peu dans le contexte. Si n'importe qui vient vous voir aujourd'hui et vous dit simplement, le Seigneur m'a parlé, j'espère que vous serez comme Thomas. Je prie pour que vous soyez comme Thomas. Je crois qu'il n'y a qu'une seule position qui soit comme Thomas. C'est celle de dire, ok, si t'as parlé, c'est bien, mais qu'il vienne me parler à moi. S'il a quelque chose à me dire, je pense que Dieu est suffisamment grand pour pouvoir s'adresser à moi directement. Alors oui, de temps en temps, il peut utiliser un ange, un pasteur, quand il s'y croit un peu plus que ce qu'il veut, d'accord? Mais en soi, pourquoi est-ce qu'il s'adresserait plus à toi, plus qu'à moi? Ou bien il faut qu'il le confirme. Mais en tout cas, je ne vais pas prendre comme ça, comme argent comptant. En ce moment, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez reçu ça, mais moi, j'ai reçu ça, c'était assez drôle, pathétique, vous verrez comme vous voulez. Il y a un pasteur qui chasse des démons en dribblant. Ah, je vois que je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Je vais faire un appel, pentecôtiste, ceux qui ont déjà vu cette vidéo, levez la main. Non, voilà. Vous avez vu cette vidéo? Il est là avec son ballon, paf, hop, hop, hop. Puis les gars arrivent, ils tombent, tout ça. Puis les gens rient, les gens sont heureux, etc. Wow! Soyez comme Thomas, les amis, quoi. C'est pas parce que quelqu'un vit ça et qu'il dit que c'est le Seigneur et que c'est un... On va analyser ça. Soyons des chrétiens de béret. Soyons comme Thomas. Tu me dis que t'as vu, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, Thomas, il ne dit pas qu'il ne croit pas. Il dit, si t'as vu, je veux voir. Et je vous invite vraiment à noter ça dans le texte. Thomas ne dit pas qu'il ne croit pas. En quoi il ne croit pas, Thomas? C'est pas dans le Christ ressuscité. C'est dans le fait que ce soit les autres qui définissent sa foi. Il ne croit pas que parce que tu as fait une expérience, ça doit être l'expérience. Parce que tu as fait une expérience, ça doit être mon expérience. Parce que c'est ta rencontre avec Dieu, que ça doit être ta rencontre avec Dieu. Il ne prend pas pour argent comptant ce qu'on lui donne. Je trouve ça sage. Je trouve ça extraordinaire. Dans notre culture actuelle, le nombre de personnes qui viennent avec un savoir et qui exigent de nous que nous adhérions à ce savoir. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Vous avez vu le nombre de personnes qui savent exactement ce qu'il faut faire avec les vaccins. Surtout le nombre de personnes qui sont persuadées que c'est le diable derrière certains vaccins. Les gars, ils n'ont aucune compétence médicale. D'accord ? Mais ils sont écoutés. Mais soyez comme Thomas. Soyez comme Thomas. C'est-à-dire, ne prenez pas comme argent comptant ce qui vous est donné. C'est l'attitude que nous avons. Ce n'est pas parce qu'une autre église vit quelque chose d'extraordinaire que forcément, nous, on doit le vivre. C'est ce que l'on vit dans nos communautés. C'est ce qui fait la beauté, la diversité de nos églises. C'est que tout à coup, on n'est pas dans un rapport de jalousie. On dit, oh là, ils ont vécu quelque chose, il faut qu'on le vive. Vous savez, il y a toujours ces moments qui existent où on voit un énorme, ce qu'on appelle réveil, je mets des grands guillemets, hein, d'accord ? Et on se dit, oh là là, il faut qu'on vive la même chose si on veut vivre, nous aussi, quelque chose de l'expérience de Dieu. Oh ! Soyez comme Thomas, zélé pour le Seigneur, pleinement zélé, mais n'adhérez pas à la foi d'un autre. Ne croyez pas en la foi d'un autre. Marie de Magdala est venue, elle a vu le Christ. Ok. Les disciples ont vu le Christ. Ok. Nous avons rencontré le Christ, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous voulons que nos enfants adhèrent à notre foi ou qu'ils rencontrent et qu'ils soient rencontrés par le Christ ? C'est quoi notre désir ? Qu'ils deviennent des religieux ? C'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une religion ? Parce qu'il appartient à une famille, parce que ça fait une décennie, et même si je souhaite que pendant des décennies, mes enfants, mes petits-enfants, etc., en fassent partie, mais pas parce qu'ils adhèrent à ce que je crois, mais parce que celui en qui je crois les a rencontrés. L'enjeu, il est essentiel. Si mon fils, qui s'appelle Thomas, il y en a qui le savent, je sais, donc je suis obligé de le laisser quand même comme ça, si mon fils qui s'appelle Thomas devient chrétien pour être comme son père. Mais c'est triste. C'est terrible même pour lui, sans qu'il s'en rende compte. Il pourrait même devenir le plus grand des pasteurs, ça serait terrible. Vous rappelez ce qu'on nous dit sur l'annonce du témoignage ? Nous ne faisons pas témoignage de nous-mêmes, mais nous faisons témoignage du Christ. Or, depuis que nous sommes enfants, depuis que je suis enfant, que ce soit dans l'Église réformée, dans l'Église évangélique, quelle qu'elle soit, on nous a appris qu'apporter témoignage, c'est dire ce que Dieu avait fait pour nous. Mais ça, c'est apporter un témoignage de moi. Ça n'a aucune espèce d'importance, moi. Ce qui est important, c'est que ce que je dis soit un témoignage du Christ. Que quelque part, après 7 ans de prédication, de culte, vous ayez autant oublié le groupe de louanges que Valérie, que moi, pour qu'il n'y ait que le Christ qui reste en vous. Et si c'est ça qui reste, alors le culte aura été réussi. Alors, ça aura eu du sens ce que vous avez fait. Ça aura eu du sens ce que tu as fait, ça aura eu du sens ce que j'ai fait. Pas que je sois venu avec mon témoignage, moi Samuel, voilà ce que j'ai fait, waouh, super, c'est génial ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Oui, c'est génial ce qu'il a fait dans ma vie, mais ce qui est important, c'est ce qu'il veut faire dans la tienne. Ce qui est important, c'est comment il va te rencontrer. Comment justement, ce n'est pas la croyance de l'autre qui me définit. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui n'est pas rendu en français dans le grec. Il y a une double négation dans ce que Jésus dit à Thomas. Pour ceux qui connaissent un peu le grec, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup le grec, je ne connais pas beaucoup le grec. Mais en clair, on nous dit « pas devenir, pas croire, mais crois ». C'est un peu intraduisible, d'accord ? Alors certains me diront « devenir, guinomai », c'est le mot qu'on emploie pour verbe « être » quand il a une déclinaison pas possible. Mon niveau de grec s'arrête là. Sauf que le verbe « être », il a une déclinaison pour le temps qui est employé ici. C'est-à-dire que le verbe qui est employé ici, c'est vraiment « devenir ». En clair, Jésus est en train de dire « ne deviens pas ce que tu ne crois pas, mais crois ». Et là, moi, ça me parle. Parce qu'on a vu avant cette situation de Covid, à quel point, par exemple, nous avons des gens qui se situent en opposition, en souffrance, en difficulté. Je pense aux Gilets jaunes qu'on a complètement oublié, alors que ce qu'ils revendiquaient, on devrait l'entendre. Je ne parle pas des Black Blocs, hein, d'accord ? Mais ils étaient dans une disposition de « on ne veut plus croire dans un gouvernement ». Mais quand on ne veut tellement plus croire dans un gouvernement, dans une situation, on devient même identifié dans ce que nous ne croyons pas. Regardez tout simplement la montée des populismes se base sur cela. Regardez tout simplement toute cette pensée complotiste qui peut exister autour de nous. Elle se base non pas sur des affirmations, mais sur le fait que nous ne croyons plus en quelque chose. Ne deviens pas ce que tu ne crois pas. Que ce que tu ne crois pas ne soit pas ce qui te définit. Que ce que tu ne crois pas, sachant que ce que tu ne crois pas, lorsqu'il le dit à Thomas, c'est l'expérience de l'autre comme quelque chose qu'il devrait acquérir et comme quelque chose qui devrait être une évidence. Je sais que Christ est ressuscité, qu'il est mort, et qu'il est ressuscité, qu'il a donné sa vie pour moi. Je sais qu'il est tout pour moi. Mais en même temps, si mon frère, ma sœur ne le vit pas, si tu ne le vis pas, si le Christ ne te rencontre pas, ça n'a aucun sens que tu y adhères. Y croire pour y croire, c'est ce qui a monté une religion contre une autre. C'est ce qui a créé des divisions, c'est ce qui crée le non-rapprochement entre nos communautés qui doivent garder leur singularité. Ne crois, ne deviens pas ce que tu ne crois pas. Ne te laisse pas absorber par le fait que tout à coup, c'est le fait que tu t'enfermes dedans. Nous avons vécu ça en tant que chrétiens. Combien de fois nous sommes confrontés à quelqu'un que nous ne pouvons pas décrire comme un frère et comme une sœur parce que nous ne voulons pas croire en ce qu'il nous dit. Parce qu'il a fait une expérience extrêmement charismatique. Ah, ça, c'est embêtant. Ou bien parce qu'il a fait une expérience extrêmement mystique. Ça, c'est embêtant. Imaginez, en plus, si c'est un cadeau. Oh. C'est pas possible. C'est pas écrit. Donc, je ne veux pas croire. On a peut-être raison. Soyons comme Thomas. Mais ne devenons pas, justement, suspicieux de la foi de l'autre. Ne devenons pas simplement des hommes ou des femmes qui nous enfermons dans quelque chose qui nous rassure parce que nous avons peur d'une rencontre. Et regardez comment Jésus rencontre Thomas. Il vient, il apparaît à tous, et puis là, il s'arrête. Il le regarde dans les yeux et il lui dit, mais mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, c'est-à-dire ne sois pas celui qui est enfermé dans ce que tu ne crois pas, ne sois pas enfermé par ce que les autres croient pour toi, parce qu'eux ont vu, nous avons vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur, ce qui précède dans le texte, même le disciple bien-aimé qui dit, il a vu et il a cru. Ne sois pas enfermé par cela et par le fait que tu n'as pas vécu ça. Mais maintenant, tu as demandé de toucher, touche. Et est-ce que Thomas touche? Est-ce qu'il touche? Dans les représentations, oui, mais est-ce qu'il touche dans le texte? Pas du tout. C'est extraordinaire. Jésus-Christ lui dit, ben, tu veux voir, tu veux toucher, regarde et touche. Et Thomas ne regarde pas et ne touche pas. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi il ne regarde pas. Vous me dites, oh là, mais il est en face de lui. Mais simplement par sa réponse. La réponse qui est la profession de foi la plus belle et la plus grande que l'on ait dans toute l'Écriture. Mon Seigneur, ça va. Mon Dieu, dans la bouche d'un juif, mon Dieu, c'est le Dieu de Moïse, d'Abraham, de Jacob. Mon Dieu, c'est ce Dieu unique, celui qui s'est révélé et qui a libéré son peuple. Mon Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est pas, t'es un peu Dieu. Mon Dieu, c'est celui que l'on ne peut pas voir. Je vais pas vous faire un cours de théologie, je pense que ça, Pierre vous l'a suffisamment expliqué. S'il y a bien une personne, un être, une chose, je ne sais pas comment le décrire, que nul ne verra jamais, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu, nous pouvons voir le Christ. D'ailleurs, notez que dans l'Apocalypse, on ne voit jamais le Père. Hein. C'est le Fils qui est sur le trône. On ne peut pas voir Dieu, et c'est normal, et c'est saint. Lui-même, quand il apparaît, que ce soit à Élie, à Moïse, il faut se cacher le visage. Et Thomas le reconnaît comme mon Dieu. Celui que je ne peux pas voir, celui qui ne peut pas être vu, c'est toi. Alors, quand tout à coup, Jésus lui dit... Est-ce que c'est parce que tu m'as vu que tu as cru? Pourquoi, encore une fois, cette phrase, on l'a transformée en une affirmation? On a vu tout à l'heure, merci Valérie, quand Jésus pose une question, c'est une vraie question. Il n'est pas tordu comme nous, on pose des fausses questions. Vous savez, les fausses questions, c'est quand on pose une question à quelqu'un, mais il faut qu'il réponde automatiquement une bonne réponse. Hein? Ça, dans le couple, ça fait des dégâts, mais dans l'Église aussi, quoi. Non, c'est une vraie question. Est-ce que c'est parce que tu m'as vu que tu as cru? Avec ce que je connais de Thomas, ce que je viens de lire, j'ose émettre l'hypothèse que non, ce n'est pas parce qu'il a vu qu'il a cru. mais parce que tout à coup, le Christ est venu le rencontrer dans son attente, dans son besoin. Il est venu le rencontrer et créer justement pour lui, faire germer en lui le croire et la foi. C'est ça qui amène Thomas à croire. Ce n'est pas qu'il ait vu le Christ, c'est que le Christ est venu jusqu'à lui dans son attente et dans son attente la plus singulière. Si je ne mets pas mon doigt, ça c'est ce que vous retrouvez au verset 25, d'accord ? Si je ne mets pas mon doigt à la place de son clou, ma main à son côté, non, je ne croirai pas. Il ne mettra pas le doigt ni la main et pourtant il croira. Mais Jésus lui a offert la possibilité de le faire. Il lui offre cette possibilité comme presque pour lui montrer, tu vois, tu n'as même pas besoin de cela pour que tout à coup tu puisses croire. Pour que tu ne puisses plus être défini par la foi des autres, par le regard des autres qui te dit « tu as besoin de croire, regarde, nous on l'a vu ». Pour que tu ne sois pas défini par le fait que les autres ont vécu quelque chose et tu es dans l'amertume de ne pas le vivre toi-même. Ça, c'est le piège de nos églises, hein. Cette jalousie qui existe entre nous. Et des fois même entre frères et sœurs, parce que l'un a vécu quelque chose d'extraordinaire alors que l'autre non, l'un a retrouvé du travail alors que l'autre non, l'un est dans le deuil alors que l'autre il va se marier, j'en sais rien. Enfin, et là je passe des exemples qui sont simples. Des églises dans lesquelles on se donne des efforts énormes pour être le plus juste possible par rapport à l'écriture. Puis on reste quelques-uns, et puis d'autres, ben voilà, et puis c'est d'autres. Comment on se positionne? Et si on arrêtait de devenir ce que nous ne croyons pas, c'est-à-dire d'être défini par l'autre pour être simplement dans cette rencontre du ressuscité qui vient, même au plus profond de nos attentes, et qui te dit « crois ». Que nous puissions entendre « heureux, vous, qui avez cru sans avoir vu ». Ce que Pierre reprendra dans son épître. Est-ce que nous sommes des femmes et des hommes qui croyons parce que nous avons vu ? Et c'est déjà super. Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. Pierre, les autres. Ou est-ce que nous pouvons aussi entendre que nous pouvons croire sans avoir besoin de nous attacher à ce que l'autre croit ? Est-ce que nous pouvons aussi entendre et voir que l'autre peut croire différemment de nous ? Ne sois pas ce que tu ne crois pas. Ne sois pas ce que l'autre croit. Sois dans une relation avec moi, parce que je suis en relation avec toi. Et je pense que c'est pour cela que ce passage arrive avec cette conclusion. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on la lise. Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant que vous ayez la vie par lui. Ce qui est écrit dans ce livre, tous les témoignages que nous entendons ne sont pas là pour que nous les reproduisions. Ils sont là pour que le Christ vienne dans nos vies et nous rencontre, pour que nous puissions croire au Christ. Et ce que nous allons faire de la lecture de l'Écriture, de nos églises, une doctrine, c'est-à-dire le moyen du salut? Ou est-ce que ce qui nous a été donné et les témoignages que nous apporterons seront des témoignages qui disent qui est le Christ? En clair, de passer à cette profession de foi de « j'ai vu le Seigneur, mon expérience » à celle de Thomas, « mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que quand je vois ma sœur, mon frère, je lui dis « j'ai vécu quelque chose » ou « Christ est mon Seigneur et mon Dieu ». Je vous invite, chacun d'entre vous, à être comme Thomas, qui, je le crois, nous est montré comme un exemple positif. Soyez... Ça y est, j'ai perdu mon mot. Mais quand on vous dit quelque chose, prenez pas des vessies pour des lanternes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Christ que vous devez le vivre et qu'il faut le vivre. Osez le dire. Parce que ce n'est pas être incrédule, ça. C'est le fait de ne pas être défini par la foi de l'autre. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si nous croyons que Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen.